France Musique.
Merci beaucoup Lionel Esparza, à demain pour un nouveau Classic Club.
1, 2, 3, pas. Hein ? Encore une fois ?
Chers écouteurs, bienvenue dans le Cri du Patchwork, une émission qui respire le bruit. Dernière émission sur l'intime. Et aujourd'hui, nous écouterons la parole de Marcel Hudon, artiste marionnettiste, programmé dernièrement à la Maison des Métallos à Paris avec son spectacle Le Pavillon des Immortels Heureux, où chaque objet, au départ inerte, est mis en mouvement par la diffusion d'une trame sonore. Réagissant aux vibrations de haut-parleurs, les marionnettes de Marcel Hudon entendent et captent des sons inaudibles, des forces invisibles selon ses mots. Ce qui pose la question du pouvoir de l'inaudible, dans le sens du non perceptible. Une émission tout en... Et comme chaque mardi, un son en plein brushing à la scie égoïne. Le cri du patchwork, thème numéro 26, épisode numéro 5, séquence numéro 1.
Eh, qu'est-ce que vous avez fait encore ?
Pas étouffé.
Eh oui.
Le son de la semaine. La guimbarde, un instrument extrêmement partagé dans le monde, qu'il soit fait de métal ou de bambou, des plaines de Sibérie au blues des États-Unis. Écouter de la guimbarde, c'est s'approcher au plus près de l'interprète, de la bouche de l'interprète. Car c'est cette bouche qui sert de caisse de résonance pour amplifier cette petite lamelle mise en vibration. Et enregistrer une guimbarde implique de quasi coller le micro devant la bouche du musicien. Comme dans ce solo de Marina Mihailova Melenteva, enregistré sans doute chez elle dans son intimité, où l'on entend des râles, des souffles, des aspirations brisées, nous révélant tous ces bruits parasites de bouche, tandis que la guimbarde, sculptée dans un os de renne, retentit. Jouer de la guimbarde implique de pouvoir créer une mélodie à partir d'une seule note, d'un seul son, celui de la lamelle vibrante. Pour réaliser ces différentes notes, le musicien doit modifier délicatement le volume de sa capacité buccale, en jouant avec sa langue par exemple. Et on trouve de vrais virtuoses de la langue, comme dans cet extrait de guimbarde du Kirghizistan, où le trémolo crée une mélodie ciselée et ornementée. Tout ça à partir d'une simple lamelle posée sur la bouche. Thank you. Jew's Harp Machine, pour ensemble de guimbardes réunissant, s'il vous plaît, Gavin Bryars, Michael Nyman, Christopher Hobbs et le compositeur de cette pièce, John White. La crème de la musique expérimentale britannique qui utilise les cycles de respiration pour créer une musique répétitive et obsédante. Ici, la mélodie est secondaire. C'est bien la guimbarde comme instrument de percussion qui transparaît d'une telle utilisation. Un peu comme ici, lorsqu'elle répond à la voix d'un bluesman français dans le groupe mythique Grand-mère Funibus Folk, acteur du revival folk des années 70, reprenant le standard du blues Baby Please Don't Go en franglais, et où la guimbarde joue à la fois le rôle de percussion et de guitare en reprenant constamment la formule type de ce morceau.
Faut pas t'en aller loin de ma maison où je t'aime Papa don't know, your mama don't know, I got a paper in my shoe, papier dans mon soulier, faut pas t'en aller. Faut pas t'en aller, loin de ma maison.
Il y a toujours un effet étonnant avec la guimbarde. On a l'impression qu'on a ajouté un effet en studio, sur ce son qui semble presque synthétique. D'ailleurs, écoutez cette guimbarde chinoise, le Kuxiang, joué par son virtuose Li Wang. Dotée de plusieurs lamelles juxtaposées, la guimbarde chinoise a la capacité de jouer plusieurs sons en même temps. Et là, c'est bluffant. Au tout début du morceau, « Mon ami l'escalier », on a comme la sensation d'entendre un bon vieux bon tant pis. Eh bien non.
Yeah.
L'effet sonore de la guimbarde amplifié par la manipulation sonore en studio sous les doigts de Bernard Parmigiani. Dans L'Oscillier, extrait de Pour en finir avec le pourvoir d'Orphée, Parmigiani part d'un enregistrement du musicologue Tran Kang Ai, où l'on entend même le bruit du doigt grattant la lamelle en métal. Pour un musicien attentif, au son comme Parmigiani, c'est du pain béni, toutes ces matières sonores en un seul et si simple instrument, lui créant un prolongement électronique. Alors que la guimbarde est déjà un prolongement de la voix, du souffle, une sorte de masque sonore de l'appareil vocobuccal de l'homme. Ainsi, la vocaliste Hélène Lesage et le touche-à-tout Jean-Jacques Birger s'en emparent dans leurs 7 merveilles du monde. Voici le phare d'Alexandrie pour guimbarde et tabouret. Alors, évidemment, faire un duo entre une guimbarde et les grincements d'un tabouret demande à placer les micros d'enregistrement aux bons endroits. La guimbarde ne peut pas faire le poids en volume sonore avec un tabouret. Acoustiquement, il est difficile d'intégrer une guimbarde à un large ensemble instrumental, par exemple. Le compositeur letton Erics Eisenvalds, dans Rivers of Light, adjoint à tout un chœur mixte une guimbarde, dont l'éloignement et la présence discrète en font simplement un instrument de bourdon, lointain, lointain.
Thank you.
alors imaginé avec un orchestre symphonique entier. Et pourtant, Charles Ives, dans Washington's Birthday Symphony de 1919, intègre une forme de solo de guimbarde dans son premier mouvement. Tendez l'oreille. Attendez, ce n'est pas du tout réaliste. On a l'impression que la guimbarde supplante totalement le reste de l'orchestre. Une image sonore déformée grâce au truchement du studio. Allez, une autre version sans doute plus vraie. Alors là, il faut tendre l'oreille. Se demander lors de la création en 1931 de cette symphonie de Charles Ives où pouvait être placée cette guimbarde pour pouvoir être entendue. Mystère. Bon, quitte à créer des images sonores complètement fantasques et acoustiquement impossibles avec des guimbardes, voici un extrait de bande originale du film Geronimo de Tony Gatliff. La surenchère d'instruments électriques par-dessus le duo de guimbardes discrètes embarque ces deux petits instruments dans une forme de post-punk tonitruant. De la guimbarde en os de reine de Sibérie à la guimbarde électrique.
Qu'on y arrive. Hein? C'est pas compliqué quand même.
France Musique.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun. Mère Salut, donc bonjour.
Bonjour.
Vous êtes marionnettiste et là vous êtes ici à Paris, à la Maison des Métallos, à l'occasion de la Biennale Internationale des Arts de la Marionnette, du 12 au 14 mai, avec un spectacle assez particulier qui s'appelle Le Pavillon des Immortels Heureux, dans lequel on n'entend pas grand-chose, mis à part le mouvement des marionnettes qui est déclenché par un système qui nous fait entendre de l'inaudible, ou plutôt qui nous fait voir de l'inaudible. Alors Marcel Hudon, ce projet-là, est-ce que c'était pour nous dire simplement que finalement le son, c'est un peu du mouvement ?
Ben, c'est certain que moi j'ai une fascination pour la physique simple en fait. Et aussi je suis une chercheuse, donc c'est sûr que dans la curiosité de la recherche, il y avait pour moi, comme je suis marionnettiste, il y avait pour moi cette espèce de défi de partir de la vibration d'un haut-parleur par exemple et de voir comment cette vibration-là pouvait être étendue à un mouvement de marionnette dans ce cas-ci, et un mouvement qui a des variations, qui joue avec l'aléatoire. Comme je fais du théâtre d'ombre aussi, les petites lumières de théâtre d'ombre qu'on utilise aussi pour le projet sont animées aussi, sont toutes nourries par des fréquences sonores inaudibles, soit dit en passant. Et donc, ça produit des ombres qui vacillent, des mouvements. On n'est pas loin de quelque chose de l'animisme, en fait, à quelque part, mais on a vraiment pris plaisir, Maxime et moi, à raffiner, si tu veux, le mouvement des marionnettes pour pouvoir avoir vraiment des trucs qui sont inattendus, avoir une dynamique étonnante, mais quand même qui se rapproche un peu de l'humain, mais pas trop, parce que ce sont des automates, mais pas des automates rigides comme le font les horlogers. Ce sont des automates qui répondent à leur propre façon aux petites secousses sonores qui les animent. Voilà.
Marcel Hudon, vous parliez de Maxime, c'est Maxime Rioux qui est un peu le responsable de ce système, donc de vibrations à partir de haut-parleurs pour mettre en vie ces corps inertes au départ. C'est le système qui, et ça c'était l'objet d'une recherche vraiment pour vous, de ce lien entre ce mouvement, ce son et cette lumière à Montréal, puisque vous êtes tous les trois, alors c'est-à-dire vous, Marcel Hudon, Maxime Rioux et Martine H. Crispo, qui est à l'environnement sonore qui a nourri votre spectacle. Tous les trois, vous êtes montréalais à Québec, et donc l'idée pour nous, c'est de savoir comment vous avez cheminé vers ce spectacle où finalement on ne voit que des objets, jamais de manipulateurs, parce que la marionnette, quand on pense marionnette, on pense manipulation, et là, il n'y a pas de corps humain sur scène, il n'y a que des objets inertes qui se mettent en mouvement. Quel a été le chemin?
Bon, donc Maxime Rioux, c'est vraiment un vieux pote à moi, on se connaît depuis. On a fait plusieurs performances qui mélangeaient toutes sortes de disciplines, on a ça en commun, je pense. On aime beaucoup la force de la spontanéité, la recherche qui cause des accidents, l'accident de la recherche lui-même. Maxime travaille donc avec la vibration des haut-parleurs, se sert de la vibration des haut-parleurs depuis vraiment, je pense, une vingtaine d'années. C'est vraiment au cœur de sa recherche. Donc, alors l'idée, le principe, c'est que on envoie des très basses fréquences, beaucoup de très basses fréquences, par exemple 1 Hz, et ça fait bouger la membrane du haut-parleur, si on veut, et ça sert de force motrice. Mais Maxime Rioux, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il travaille avec cette force-là, mais pour créer des orchestres de percussion. Donc, ce sont pas des marionnettes au départ qui étaient au bout du fil, si on veut, ou attachées au haut-parleur, mais plutôt toutes sortes de percussions. Donc, lui, sa recherche était vraiment musicale, percussive, et puis il conserve la fascination pour ce système-là depuis des années. C'est vraiment le cœur de sa recherche. Et un jour, Maxime me dit, mais Marcel, veux-tu essayer de faire une marionnette automate? Tu toucherais pas du tout à la marionnette. Moi, je suis une manipulatrice, je suis une performeuse. Et puis je m'intéresse justement beaucoup au langage du manipulateur. Je trouve ça extrêmement fort, hein, presque plus fort que la marionnette elle-même. Mais ça prend une marionnette quand même. J'aime pas quand il y a que des manipulateurs. C'est vraiment la relation. Je trouve que c'est un langage très puissant. Et donc, cette fois-ci, la beauté de la chose, c'est justement l'absence du manipulateur. Puis ça, je pense que c'est étonnant. Il y a une fascination pour les automates depuis la fin du 19e siècle. Il y a une grande fascination pour ces objets qui bougent sans qu'on voit de manipulateur. Donc, cette fascination-là est toujours encore présente chez les spectateurs, de voir des trucs qui bougent tout seuls. On voit pas les fils, mais on veut croire à la magie. Et comme c'est pas un truc qui est numérique, c'est complètement fabriqué, on voit, c'est du papier, on voit, donc on se rassure sur la matière elle-même, mais ça bouge tout seul. Donc, il y a cette espèce de drôle de façon-là que les marionnettes ont de s'incarner qui fascine, en fait, à quelque part. Puis le système qui, Je me demande si Maxime appelle encore ça le système qi, mais bon, parce que le qi, ça venait de l'énergie vitale, hein, du qi chinois, parce que c'est vraiment la vibration, en fait. Il y a quelque chose de très tribal, à un moment donné, parce que, évidemment, c'est ça le type d'énergie qu'on a pour animer soit les percussions ou les marionnettes. Donc, les spectateurs se retrouvent devant une série de créatures qui se meuvent seules, donc ils veulent croire à la magie. Ils se laissent prendre par la magie, c'est super. Mais en même temps, ils sont très contents après de savoir que, ah oui, c'est relié à un fil, ça se fait d'une certaine façon. Puis en plus, ce que ça fait aussi, ça fait que c'est comme un orchestre. Hein. J'ai vraiment comme, pour le moment, j'ai une dizaine de marionnettes qui sont là. Et puis donc, chacune des marionnettes est reliée à une console de son. Chaque marionnette a sa propre partition parce que une marionnette est plus sensible à une fréquence qu'une autre. Hein. Ça, c'est vraiment, c'était dans le jeu de la création, c'était vraiment très captivant de travailler là-dessus parce que tu bricoles quelque chose. On travaille avec des matériaux très, très légers, évidemment, parce que le haut-parleur, c'est fragile, donc c'est vraiment, c'est du papier, c'est des petits ressorts, etc. Puis là, Maxime puis moi, on fabrique, on travaille à une marionnette, travaille à un mouvement, là, là, là. Puis là, tu mets une fréquence dedans, tu sais, puis la marionnette, bouf, c'est pas intéressant, il se passe pas grand-chose. Mais à un moment donné, quand t'arrives exactement au bon volume, à la bonne fréquence, tout à coup, c'est étonnant comment le corps, les ressorts, le papier se mettent en mouvement. Donc vraiment, chaque marionnette a sa fréquence. Alors là, moi, j'ai un programme de son dans lequel j'ai des partitions sonores pour chacune des marionnettes. Et puis, j'ai une petite console qui me permet de choisir une marionnette ou une autre, ou de faire un ensemble, ou de faire des duos, ou de faire des solos. Voilà, donc c'est vraiment l'idée du manipulateur chef d'orchestre, d'avoir la marionnette au bout des doigts, donc, de la console.
Marcel Ludo, on vient d'écouter des enregistrements de vos marionnettes mises en mouvement par ces haut-parleurs. On a entendu des petites percussions, des tout petits pieds qui tapent contre des toutes petites plaques de bois posées sur des haut-parleurs. On n'entend pas de son en soi, c'est-à-dire de fréquence. On parle de l'inaudible vraiment qui est diffusé dans les haut-parleurs. Mais par contre, on entend une véritable percussion qui se crée. Est-ce que toutes ces percussions-là sont vraiment calculées pour pouvoir créer toujours la même partition? Ou bien est-ce que justement la marionnette peut réagir complètement différemment d'une version à une autre?
Ben, en fait, je dirais qu'elle a quand même... un répertoire. Donc, évidemment, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais j'ai deux petits papillons qui, eux autres, sont montés, non pas sur des haut-parleurs cette fois-ci, mais sur des moteurs de disques durs. Donc, les moteurs de disques durs réagissent aux fréquences sonores, aux différentes fréquences sonores qui leur sont envoyées. Et donc, le petit moteur, lui, il fait son bruit de... Pour moi, c'était proche du bruit d'un insecte, en fait, quelque part. Ces marionnettes-là sont sur un ressort, ce qui fait que ça leur donne une légèreté. Ça. Mais ils sont faits de papier, ils sont faits de tissu. Donc, le seul son que les spectateurs peuvent entendre, par exemple, c'est le froissement des ailes de la libellule elle-même. Donc, pour moi, c'est un plaisir aussi d'avoir cette délicatesse-là. Cette technique demande des matériaux extrêmement légers, beaucoup de précision, beaucoup de délicatesse, puis les gens sont sensibles à cette délicatesse-là. Ça me fait plaisir quand même. Par exemple, il y en a une autre qui est plus... ce sont deux pieds, genoux, cuisses, si on veut, qui sont posés sur le haut-parleur lui-même. Bon, comme je suis marionnettiste, je suis un peu obsédée par les articulations, comment ça bouge. Donc, pour moi, c'est aussi quelque chose de visuel, c'est clair. Il y a vraiment un aspect visuel à ça qui s'ajoute à l'aspect sonore. Ça peut être nécessairement créé au départ pour être sonore, mais évidemment, le matériau a sa propre sonorité. Le matériau réagit d'une telle façon quand il en heurte un autre. Donc, les petits pieds, ouais, ils font une bonne cadence. Quand je change la fréquence qui l'alimente, mais je peux varier la posture des pieds, la posture de la course, etc. Donc, et donc, ben, ça fait un tout, c'est-à-dire le son que l'automate produit, son mouvement, sa rythmique, ça en fait, à quelque part, un instrument de musique. Mais au départ, c'est pas l'idée d'être un instrument de musique. Par contre, il y a deux percussions que j'ai réussi à amener ici dans l'installation. Il y a un tambour lui-même, qui lui, bien évidemment, est là pour sa présence de tambour, c'est clair. Puis j'en ai une autre petite en peau de girafe aussi qui accompagne un autre automate. Les autres sont vraiment là pour leur sonorité de percussion elle-même. Bien, les marionnettes, par exemple, j'ai des grands lutteurs qui croisent les fers. On entend juste... C'est vraiment que les fers qui se croisent. Puis c'est vraiment... agréable d'être dans une pièce avec 45 personnes où tout le monde est extrêmement silencieux parce que, justement, ils veulent entendre les fers qui se croisent, qui sont du bambou, des mini... des fers. Donc, cette espèce de délicatesse-là, si on veut, du son de l'automate lui-même participe, je pense, à les rendre... à les faire parler, quoi. C'est aussi pour moi une installation de théâtre d'ombre. Donc, et je me sers du système Key aussi pour alimenter mes lampes de théâtre d'ombre. J'adore le théâtre d'ombre. Je trouve que c'est un médium qui fait référence à tout ce qui se passe dans l'inconscient, dans l'univers de l'inconscient, dans ce qui est onirique, etc. Et dans ce cas-ci, parce que mes lampes de théâtre d'ombre sont donc nourries par une fréquence qui est pas constante, ça fait une lampe qui vacille. Donc, j'ai l'impression de revenir au théâtre d'ombre traditionnel où est-ce qu'ils utilisaient une flamme, qu'on a une lumière vivante, en fait, qui était une flamme. Donc, ça, c'était mon idée aussi, que les gens puissent entrer dans une espèce de pavillon où les lumières vacillent, les ombres les entourent. Parce que les marionnettes sont pas très grandes, mais les ombres, quand même, ont réussi à avoir une belle ampleur. Donc, pour moi, ça participe aussi à cette espèce d'ambiance pas mystique vraiment, mais quand même, je sais pas, une espèce d'enveloppe mystérieuse, c'est sûr, parce que ça se mue tout seul, puis voilà. Thank you.
Alors salut Don, on vient d'écouter ici un extrait d'un morceau de Martin H. Crispo qui était à l'origine de l'environnement sonore sur lequel vous avez travaillé pour ce spectacle, Pavillon des Immortels Heureux. On entend une musique faite de bribes, beaucoup de petits sons, une matière qui est très infime et qui touche à l'inaudible, c'est-à-dire on a l'impression d'entendre des choses mais on n'arrive pas du tout à les attraper. Est-ce que pour vous c'est aussi ce côté, on pourrait dire très poétique, onirique même de cette musique de Martin H. Crispo qui vous a permis aussi de créer ces personnages? Je dis personnages, ces instruments isolés, ils nous racontent chacun quelque chose et puis finalement on essaie de capter un peu ce que l'on veut à l'intérieur. Est-ce que la musique pour vous a été vraiment un déclencheur dans la construction de ces instruments?
En fait, pas du tout. Par contre, le son des marionnettes elles-mêmes a fait partie de la création. Martine s'est vraiment ajoutée. C'est une collègue avec laquelle j'adore travailler. Je travaille souvent avec elle en création. Et puis, Martine s'est ajoutée quand on a eu quelques marionnettes de construite. Puis ce que j'aimais beaucoup, justement, dans ce que Martine amenait, c'est que elle n'impose rien avec sa musique. Plutôt, on dirait, c'est comme si elle ouvre l'espace, en fait. Puis en même temps qu'elle ouvre l'espace, elle vient nous chercher avec des sons tout petits qui font effectivement écho au son de la marionnette elle-même. Donc, dans ce sens-là, j'ai vraiment apprécié ce qu'elle a fait comme proposition musicale.
Et on entend aussi, là, dans les différentes propositions que j'ai pu enregistrer sur le spectacle, on entend l'orchestre complet. Et là, tout d'un coup, on a l'impression d'avoir une communication qui se crée vraiment entre eux. Est-ce que pour vous, c'est une manière de vraiment composer avec eux?
Oui, c'est vraiment l'idée de l'orchestre, carrément. Puis à la fois, comme je disais tantôt, ça se passe visuellement, parce que les marionnettes sont accompagnées de leurs ombres, mais au-delà du mouvement... Parce que c'était le défi de départ, c'était de leur donner un mouvement qui était intéressant, qui avait des variations et tout. Il y avait aussi l'aspect visuel de la chose. Donc, j'ai quand même deux couples de lutteurs, mais fallait travailler avec des matériaux très, très légers pour pas déséquilibrer, en fait, pour pas modifier le mouvement qui, comme je disais tantôt, est extrêmement fragile de façon ténue liée à la vibration elle-même. Donc, vraiment, je suis allée pour un esthétique qui, c'est ça, qui pour moi me rappelait la naissance du théâtre d'ombre. Donc, ce sont des personnages qui ont un peu des caractères. Ils ont vraiment leur mouvement. J'ai des lutteurs, j'ai des papillons, j'ai des squelettes, l'ombre des squelettes. J'ai un chevalier qui court aussi, des petits pieds. Une espèce de, moi j'appelle ça une renarde, mais il y a des gens qui pensent que c'est un cochon, d'autres qui pensent, puis j'ai vraiment aucun a priori sur ce que les gens ont à penser de ce que c'est. Par contre, pour moi, c'était un mélange qui faisait sens d'une façon poétique et complètement non littéraire, vraiment, parce que c'était l'idée des combats de la nature, de la vivacité, de la danse de l'amour comparée à un peu un combat ou de la survie. J'ai aussi un personnage qui s'appelle Bingo, qui perd la tête, qui court après sa tête, t'sais. Donc, j'ai tous ces personnages-là, si on veut, puis vraiment, c'est un plaisir pour moi de les considérer comme des instruments d'un orchestre. Il se passera pas la même chose si je mets les lutteurs en parallèle avec les petits pieds qui courent, par exemple. Que si je... Donc, c'est la même chose qu'un choix d'instrument de musique où tu décides que là, tout à coup, tu as une clarinette que tu mets en relation avec une contrebasse. Ou tout à coup, bon, ben, tu as la clarinette, la contrebasse, s'ajoute le violon tout à coup. Pour moi, c'est la même façon. J'ai le même plaisir à gérer cet orchestre-là. C'est pour ça que j'appelle ça un concert, en fait. Donc, j'ai vraiment le plaisir du chef d'orchestre. J'ai 10 marionnettes au bout des doigts. C'est vraiment super. Donc, trio, ensemble, solo, etc. D'ailleurs, je fais la manipulation live quand les spectateurs sont là. Ça aurait été possible pour moi de programmer la séquence, une séquence de 30 minutes, par exemple. Mais après, c'est quoi? Je fais de la programmation informatique, ça m'intéresse pas. Ce que j'aime, c'est vraiment d'avoir les instruments au bout des doigts puis de faire le concert. Puis je réagis selon la nature des spectateurs, selon l'intérêt des spectateurs. Après, ça se passe de la même façon dans la tête des spectateurs. Il y en a quelques-uns qui font « Ah oui, mais c'est quoi l'histoire? C'est quoi? » Mais je fais « C'est quoi l'histoire que vous avez vue? » Puis ils sortent des histoires complètement différentes. Mais je fais « Mais toutes les réponses sont bonnes pour moi, tu sais. » C'est sûr que de présenter ça dans un contexte théâtral, il y a certaines personnes qui peuvent être déroutées, mais quand même, je réussis à les séduire, je suis quand même assez contente. Parce qu'ils ne sont pas reconduits dans le scénario, si on veut, mais en même temps, ils sont invités parce que ce sont des personnages. Ils sont invités donc à se créer des scénarios. Pour moi, le langage premier de la marionnette, c'est sa matière. Au-delà des mots, je suis pas tant une personne qui travaille avec les mots. J'aime les mots, je pense que ça, ça force cette expression. Mais ça fait 35 ans que je fais de la marionnette. Hein. J'ai fait de la scène, je manipule, je suis quelqu'un qui incarne des personnages sur scène. Je suis une actrice, une performeuse. J'aime le contact avec les spectateurs. Mais vraiment, de toutes mes années d'expérience, moi, une des choses qui m'apparaît claire, bon, c'est ma sensibilité, mais c'est que le langage premier d'une marionnette, c'est le son que la marionnette produit, le son produit par la marionnette elle-même. Donc, c'est la matière dont elle est constituée. Puis pour moi, c'est là où il y a une différence entre le jeu d'acteur et le jeu marionnettique. C'est aussi dans le choix des matériaux de la marionnette, dans le choix de... Par exemple, si je fais une marionnette en métal, avec des grosses chaînes de métal, mais pour moi, la force du son, du métal qui joue ensemble, qui va se frapper sur la table de manipulation ou je sais pas quoi, mais pour moi, ça, c'est déjà porteur. C'est déjà un signe, c'est déjà un symbole. Et si j'ajoute des mots là-dessus, j'impose au spectateur, à l'auditeur, une histoire. Alors que si j'ai des grosses chaînes en métal que je manipule d'une certaine façon sur une table en métal, mais le spectateur, auditeur est autant nourri visuellement par une action que sonorement. Et pour moi, ça, qu'on puisse se rejoindre sur cette sensation-là, cette émotion-là, c'est un langage qui m'interpelle énormément. J'adore ça. Et de la même façon, après, si on a une petite marionnette qui est faite en plume, qui est complètement silencieuse, mais déjà, elle parle. Donc, si on met en contexte ces deux éléments-là, par exemple, mais déjà, on a un scénario, déjà, on a une histoire. On dit pas, bon, mais c'est quelqu'un d'enchaîné dans une prison puis qui veut s'envoler. Oui, peut-être que ça vient à la tête d'un spectateur, mais pour moi, ça peut être aussi, OK, c'est le poids de l'âme humaine versus la beauté du discours philosophique, par exemple. Donc, toute cette marge-là, pour moi, c'est extrêmement important de pouvoir la donner au spectateur. T'sais, on a eu des petits-enfants hier matin, je pense, quelque chose. 6 ans. Puis c'est ça que je leur dis. C'est quoi l'histoire, madame? Mais c'est quoi ton histoire? Ton histoire, c'est la bonne. T'as le droit, t'as la liberté de penser toi-même et de faire tes propres images. T'as la liberté de te l'inventer, la créer, ton histoire, avec tes références à toi. Je trouve ça extrêmement important. Thank you.
Marcel Hudon, le pavillon des Immortels Heureux, c'est un spectacle qui court depuis maintenant 3 ans, qui est repris régulièrement. Et pour vous, c'est le départ d'une autre collaboration avec Maxime Rioux, Martine H. Crispo. Est-ce que c'est l'idée que finalement cette trouvaille de mise en vibration d'objets inertes pourrait devenir aussi le projet d'autres projets ensuite?
Ben, en fait, on est tous, et Martine, et Maxime, et moi, on est tous des expérimentateurs. Donc, à partir du moment où on a créé ce projet-là, moi, j'aime beaucoup ce projet, ben chacun, on repart sur d'autres expérimentations. Maxime, par exemple, qui, lui, est vraiment interpellé, donc Maxime qui a conçu le système d'animation lui-même, est vraiment interpellé par le son, par la percussion. Son prochain projet, c'est de se servir de percussion pour faire une pièce de Steve Reich. Et donc, avec le système Key, ce système d'animation par les fréquences sonores, et donc des percussions, son but, lui, son prochain dada, sa prochaine folie, c'est de travailler sur une pièce de Steve Reich. Donc, c'est des esprits qui n'arrêtent pas d'inventer. Martine Crispo, par exemple, Martine, elle travaille, c'est très drôle parce que elle a des installations sonores, mais c'est comme si elle travaillait à l'inverse dans le cœur de sa pratique. En fait, elle crée des sons à partir de la lumière. C'est vraiment superbe, d'ailleurs. Elle a une installation qui s'appelle l'excitation sonore de Zoété. Et donc, avec des petits senseurs, elle vient capter des lumières différentes. Elle travaille avec des espèces de roues de carton qui sont perforées, donc qui laissent passer la lumière selon qu'elle tourne d'une façon ou d'une autre. Elle change les lumières aussi. Et donc, les petits capteurs qui sont au mur attrapent la lumière d'une façon différente et créent des sons. Donc, Martine est complètement là-dedans. Dans ses... Puis moi, ben, comme je suis une personne de théâtre aussi, je travaille sur une version de Dr. Jekyll et Mr. Hyde en compagnie de mes collègues du Théâtre de la pire espèce. Et c'est donc une adaptation de ce récit de Stevenson, mais adaptation à ma manière, où les ombres sont très présentes, le théâtre d'objets est très présent, la marionnette. Donc, c'est un retour sur scène pour moi comme performeuse. Mais voilà, on n'arrête pas d'essayer des trucs, on peut pas s'asseoir sur... Mais cette installation-là, les gens, ils la voient, puis c'est comme si elle revit toujours d'elle-même, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui fait « Ah, oh, on veut la revoir! » Donc, on suit l'installation, voilà.
Merci beaucoup, Marcel Hudon. Je vais vous laisser vous préparer pour votre spectacle. Alors, pour suivre votre activité, on peut peut-être se renseigner sur le site de l'AQM, c'est-à-dire l'Association québécoise des marionnettistes, où on peut suivre votre parcours et puis évidemment les spectacles qui vont suivre. Merci beaucoup, Marcel.
Au grand plaisir. Thank you.
fin de notre dernier épisode du Cri du Patchwork sur l'intime. Merci à Perrine Mingui, aux commandes et à la réalisation du Cri du Patchwork. Nous avions aujourd'hui la technique Jean-Louis Deloncle. Merci à Flora Sternadel et Marie Bouchier pour la recherche des sons. La semaine prochaine, on termine l'année avec une thématique toute d'actualité. Nous parlerons de politique. Non pas la politique politicienne, mais la politique comme espace de citoyenneté dans lequel la musique prend une place plus ou moins importante, en fonction des politiques culturelles. Enfin bon, une occasion de parler de la place de la musique de création dans la prise de conscience politique depuis les années 50. Et on commence en beauté, mardi prochain, en évoquant la Resistenza italienne de Luigi Nono et Bruno Maderna, en compagnie de Charlotte Gino Slasic, qui a consacré sa thèse de musicologie à étudier les figures de l'Espagne dans la musique de ses compositeurs et celle de Luigi Dalla Piccola. Ou quand l'Espagne de l'Inquisition ou de l'époque de Franco inspire aux antifascistes des images propres à véhiculer leurs idées politiques. D'ici là, si vous voulez connaître toutes les infos de chaque extrait diffusé dans cette émission, je vous donne rendez-vous sur le site internet de France Musique, francemusique.fr. Vous pourrez également podcaster cette émission. Chers écoutants.
Si je fais 1, tagaram, 1, parap, 2, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire. 1, parap, 2, 3. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein? Bonjour, au revoir. Voilà.
Il est minuit, l'heure pour moi de passer la main à Anne Montaron et son Ala Brévé.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.